J'aimerais ce matin, dans la continuité de ce qui nous a été partagé la semaine dernière par notre frère Bernard, vous partager l'importance d'allumer le feu. Amen. Alors je ne reprends pas un titre d'une chanson, bien évidemment, mais j'aimerais avec vous considérer l'importance pour nous d'être un peuple qui est capable d'allumer un feu. La parole de Dieu nous parle dans le livre des Actes au chapitre 27 d'un moment bien particulier, il y a un naufrage. C'est l'apôtre Paul qui se trouve sur un navire sur lequel il voyage avec d'autres prisonniers, un centenier, des soldats, le capitaine du navire, son équipage pour un total de 276 personnes. Ce navire, malgré les avertissements de l'apôtre Paul, prend le chemin dans des conditions très difficiles. Le commandant, avec le désir de gagner de l'argent, veut à tout prix prendre la mer. Le centenier le suit parce qu'il ne voit pas l'heure d'arriver à Rome. Et malheureusement, il y aura un problème. Il y aura un problème puisqu'il y aura une tempête. Bien souvent, malgré les divers avertissements de Dieu, les hommes connaissent des véritables naufrages dans leur vie, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas écouté et parce que leur cœur est tellement interpellé par le pouvoir, par l'argent ou par d'autres raisons. Et le pire, c'est qu'ils entraînent dans leur sillage bien des âmes, n'est-ce pas? Et dans le cas présent, nous voyons ce chapitre 27 qui nous parle aussi d'un homme qui aime Dieu. Qui pourrait douter de l'amour de l'apôtre Paul pour Dieu, n'est-ce pas? Alors on pourrait se dire, mais pourquoi Paul se trouve parmi ces hommes en naufrage? Non pas parce que Dieu le punit, mais parce qu'il va être un moyen de grâce. Et frères et sœurs, je crois qu'il y a des moments où Dieu permet que nous soyons nous aussi en train de partager un temps de naufrage des âmes, non pas pour nous sentir ni perdus, ni humiliés, ni abandonnés par Dieu, mais des instruments de Dieu. Et peut-être qu'en ce moment même, vous sentez votre vie passer par un temps de tempête. Et vous vous dites, mais je suis enfant de Dieu, pourquoi ça m'arrive-t-il? Mais Dieu a une leçon à donner, n'est-ce pas? Dieu a une œuvre à accomplir et quand vous regardez l'attitude de l'apôtre Paul, mais que Dieu nous donne d'être avec cette même attitude, ce calme. Il dit le texte que les 275 qui étaient sur le navire étaient tellement inquiets qu'ils ne mangeaient plus. Et Paul, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il se repose. Dieu lui parle. Et l'apôtre Paul vient vers tous ces hommes en leur disant, mais le Dieu que je sers a envoyé un ange me parler. Prenez de la nourriture. Voilà ce qui va se passer. Moi, je crois que quelles qu'ils soient les conditions et les circonstances, Dieu tient le contrôle de toutes choses. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu souhaite de notre part? On va faire une lecture ensemble. Actes chapitre 28, verset 1 au verset 10. Il dit le texte, en effet, que ce navire est arrivé près d'une île, l'île de Malte, et là, le navire, il s'est ensablé. Et la tempête était tellement forte que le navire, il s'est déchiré, il s'est cassé. La seule manière de pouvoir arriver, sauf sur le rivage, c'était de nager. Et les uns, ce sont ceux qui savaient nager, ont nagé. Les autres, ils se sont accrochés au petit bout de bois qu'il y avait. À savoir que la règle était que les soldats devaient tuer tous les prisonniers pour que personne ne se sauve, mais Dieu a touché le cœur du centenier parce que Dieu avait un projet pour l'apôtre Paul. Les tempêtes et les naufrages de l'apôtre Paul n'étaient pas terminés. Le mandat de l'apôtre Paul n'était pas terminé. Paul devait aller à Rome. Amen. Alors la question pour nous tous ce matin, où est-ce que Dieu veut qu'on aille? Est-ce qu'on est conscient que Dieu a un projet, qu'il veut qu'on aille dans son projet? Alors, si c'est vrai qu'on le sait, gardons le cœur dans la paix et dans la foi, parce que Dieu contrôle toutes choses. Une fois sains et saufs, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous accueillirent tous auprès d'un grand feu et ils avaient allumé à cause de la pluie qui survenait et à cause du froid. Paul ramassa un tas de broussailles pour le mettre dans le feu, mais une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent les uns aux autres « Certainement cet homme est un meurtrier puisqu'à à peine sauvé de la mer, la justice divine n'a pas voulu le laisser vivre. » Mais Paul secoua la bête dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort tout à coup, mais après avoir longtemps attendu, ils virent qu'il ne lui arrivait rien d'anormal. Changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs une propriété appartenant au premier personnage de l'île du nom de Publius, qui nous reçut et nous logea amicalement pendant 3 jours. Le père de Publius était alité, en proie à la fièvre et à la dysenterie. Paul entra chez lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, virent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs. À notre départ, on nous fournit ce dont nous avions besoin. Amen. Amen. Je crois qu'il est important pour nous de ne jamais oublier nos propres naufrages. Vous savez, c'est tellement facile de voir et de constater les naufrages des autres. Quand on voit quelqu'un passer par des mauvaises décisions et vivre des tempêtes, on est là et nous, on est peut-être, vous savez, un peu sur ce phare en hauteur, à distance. On regarde avec les jumelles et on se dit « Oh là 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 !» Mais on oublie que nous aussi, nous avons fait des mauvais choix dans notre passé, n'est-ce pas? Et on a tendance à juger les uns et les autres, mais dans la lettre à Tite, au chapitre 3, les versets 3 au verset 7, il nous dit « Car nous aussi, n'est-ce pas? Nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie odieux, en nous haïssant les uns les autres. Mais, heureusement qu'il y a un mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Nous étions, nous aussi. N'oublions jamais ce que nous avons été. On a souvent tendance à oublier nos erreurs. On a souvent tendance à oublier nos défaites. Et on est prêt à donner des bons conseils. Mais quand nous, on a reçu les bons conseils, est-ce qu'on les a écoutés? Je crois que si on les avait écoutés, peut-être on aurait évité certains naufrages dans notre vie, n'est-ce pas? Soyons vrais. Si on avait fait attention à la parole de Dieu, certaines choses ne seraient pas arrivées dans notre vie. Mais puisque notre cœur était loin de Dieu, puisque notre cœur était envahi par toutes les œuvres du malin, nous avons prêté plus attention à l'ennemi qu'à la voix de Dieu. Et cela nous a coûté très cher. Je dis que parfois, nos naufrages, nous continuons à porter les traces dans notre vie, non? Je crois que quand on vit un naufrage, on ne vit plus les choses de la même manière qu'avant. On a peur à reprendre le large. Vous imaginez qui aime bien être au large? À la mer. Si une fois vous est arrivé de vous retrouver dans une espèce de naufrage quelconque, vous imaginez ces petits poissons de 3 à 5 mètres qui pourraient faire de vous un petit sushi. Hein? Certainement, il va prier avant. Hein. Il va dire « Seigneur, merci pour le repas d'aujourd'hui. » Ah ben oui. Eh bien, c'est là qu'après, on a peur de se retrouver à nouveau à distance du rivage. On aime bien être là, sur le plancher des vaches. Non? Moi, ça m'est arrivé une fois. On avait fait une sortie en bateau. Et à un moment, le bateau, il s'est retourné. Aussi vite qu'il s'est retourné, moi, je me suis retourné avec le bateau, je me suis mis au-dessus. La voile était en bas, la quille était en haut, et moi, j'étais au-dessus. Et le capitaine me dit, il faut qu'on le retourne. J'ai dit, vas-y, moi je te suis. Non, mais il faut que tu descendes. J'ai dit, c'est hors de question. J'ai dit, s'il y a un petit poisson, moi c'est le premier qui me voit. Toi, t'es tout petit, il va se dire, lui, ça vaut pas la peine, on le fera, on dessert. Hein? Frères et sœurs, il y a des choses parfois qui nous laissent des marques. Mais on doit aussi considérer que ces épreuves ont été pour nous la manière, finalement, de considérer combien nous étions éloignés de Dieu. Dieu est capable de faire pour nous des grandes choses, mais nous, est-ce qu'on est capable de faire une petite pour Dieu? Obéir. C'est pas grand-chose, obéir, non? Oui ou non? Combien de fois les adultes ont pu dire aux enfants, « Je te demande une chose, c'est pas grand-chose, obéis. » Mais la réalité, c'est que l'obéissance n'est pas facile parce qu'elle n'est pas naturelle, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul, il aurait bien pu, une fois arrivé sauf sur le rivage, une fois que tout le monde était sorti de l'eau, comme il l'avait dit l'apôtre Paul, la cargaison, le navire seront brisés. Vous allez tout perdre, mais personne ne mourra. Et la réalité, c'est que les 276 personnes sont arrivées sur le rivage. Et là, l'apôtre Paul, une fois fait le compte, aurait pu dire maintenant, puisque vous êtes tous là, j'ai quelque chose à vous dire. Capitaine, si tu m'avais écouté. Non? Nous, peut-être, on l'aurait fait. Est-ce que ça aurait été sage d'agir ainsi? Le texte nous dit que l'apôtre Paul n'a pas tenu ce type de discours. Gardons-nous, nous aussi, d'être des donneurs de bonnes leçons. Sachons avancer, sachons chercher auprès de Dieu la sagesse pour savoir comment aller plus loin. Et le texte nous dit qu'une fois sain et sauf, hein, il est question d'exprimer le salut. Alors, certes, les barbares ont témoigné une bienveillance peu commune. Ils ont fait accueil. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant l'accueil? L'accueil que nous devrions nous-mêmes exercer, puisque, à l'image de Dieu le Père, le psaume 27, il nous dit « Car mon Père et ma Mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Psaume 27, verset 10. Quel bonheur de savoir que Dieu nous accueille. Peut-être que nos familles pourraient, à cause de nos erreurs, nous rejeter. À cause de nos décisions, refuser de continuer à avoir des relations avec nous. Mais Dieu nous accueille. Alors ça, c'est à l'image du Père. Mais il y a aussi l'image de Jésus-Christ lui-même. L'évangile de Luc, chapitre 9, verset 11. Les foules s'en aperçurent et le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin de guérison. C'est ça l'accueil. Le véritable accueil n'est pas celui de dire « Venez, j'ai des trucs à vous dire, je vais vous dire ce que vous avez fait de mal. » Non! C'est de leur apporter un message qui est celui du salut. Puisque Dieu vous a fait grâce, saisissez cette grâce. Vous savez, parfois on est chef et incroyablement doué à retourner le couteau dans la plaie. Hein? Un autre texte. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. » De qui parle-t-il ce texte? De Luc, chapitre 15, verset 2. De Jésus. Et Dieu appelle chaque croyant, frères et sœurs, régénéré par le Saint-Esprit, à exercer l'accueil. sommes-nous capables d'accueillir vraiment? Comment accueillons-nous quelqu'un qui vient de faire naufrage? Quelqu'un qui vient de faire naufrage, selon vous, comment il ressort de la situation? Brisé, affaibli, attristé, abattu, blessé, démuni de tout, tout perdu, mouillé de la tête aux pieds. Qu'est-ce qui lui reste? Peut-être les yeux pour pleurer. Est-ce qu'il a besoin-t-il encore de recevoir des coups sur la tête? Je ne crois pas. Romains chapitre 15, verset 7, il dit « Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. » Amen. Savoir accueillir celui qui arrive, les bras ouverts, même, excusez-moi si je dis cela, même s'ils ne sont pas super bons. Je me rappelle d'une église où un dimanche matin, il y a un homme qui est arrivé. Et cet homme, sincèrement, il ne sentait pas super bon. C'était pas évident. Et on a essayé de l'installer au fond pour qu'il dérange le moins possible. Mais il appelle la personne de l'accueil, il dit « J'entends pas. J'entends pas. » Alors cette personne de l'accueil vient me voir, me dit « Pasteur, on a quelqu'un qui... ça sent pas les roses. » Et il dit « Il a l'arrière, il n'entend pas. » Je dis « Et ?» Il dit « Demande d'avoir une place meilleure. » Je dis « Ben, viens, mets-le à ma place. »« Ah ben c'est votre place. » Je dis « Mais nous, on n'a pas de place. » « Mais c'est tout devant !» Je dis « Tant mieux, il entendra mieux » N'est-ce pas? Alors certes, je voyais les rongés à l'arrière. Ah, ils auraient été heureux d'avoir le masque à ce moment-là. Mais vous savez, ce dimanche-là, la grâce de Dieu a touché le cœur de cet homme d'une telle manière que le dimanche d'après, quand il est venu à l'église, pas seulement son visage avait changé, pas seulement son cœur avait changé, même l'état de son corps avait changé. Il avait ressenti le besoin de reprendre sa vie en main. Et cet homme, il me partageait comment, depuis le décès de sa maman, sa vie avait été une descente aux enfers. Et il se rappelait que sa maman, il lui lisait le feuillet du calendrier tous les matins. Et comme on était dans la période de Noël, il voulait trouver ce calendrier. Et il me dit « Pasteur, je suis rentré, je ne savais pas si ici je pouvais trouver des calendriers. » Et Dieu merci, il m'en restait un. Il était pour lui. Et cet homme, il est reparti heureux et dit « Maintenant que j'ai retrouvé le message que ma maman me partageait, c'est que j'ai trouvé surtout le Seigneur. » Et tous les dimanches, il était fidèle à l'église. Grâce soit rendue à Dieu, frères et sœurs, pour tous les hommes et femmes qui ont trouvé dans l'Église un bon accueil. Peut-être que qu'on n'avait pas le problème des odeurs, mais est-ce que notre âme était parfumée quand on est venu au Seigneur? Certainement pas, et je parle pour moi-même. Il a fallu la grâce de Dieu pour changer l'état des choses. Alors que le Seigneur nous donne d'agir non pas comme des barbares, mais comme des enfants de Dieu. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe quand on sert le Seigneur? Et là on voit l'apôtre Paul, il voit un feu allumé, certainement ce feu n'était pas nourri. Et Dieu nous appelle, frères et sœurs, à nourrir le feu, à prendre soin du feu. Si on a été baptisé du Saint-Esprit, nous avons la responsabilité, frères et sœurs, de maintenir le feu dans notre vie. Ce n'est pas juste question de dire « j'ai été baptisé, oui, et tu vis quoi aujourd'hui dans la vie de l'Esprit ?» Tout ne se limite pas à juste à ta personne. Le but, c'est que tu puisses répandre la chaleur. Et l'apôtre Paul se lève. Il était autant mouillé que les autres. Il était autant fatigué que les autres, autant éprouvé que les autres, mais Dieu était dans son cœur. Et il a senti la responsabilité, c'est la même responsabilité qui devrait animer notre vie, d'aller et de chercher du bois. Alors que se passe-t-il? On pourrait se dire, quand on sert le Seigneur, tout doit être merveilleux. Tout est simple. Rien ne peut nous arriver, n'est-ce pas? Alors on peut comprendre la surprise des barbares quand ils voient que l'apôtre Paul, alors qu'il prend du bois, il veut faire du bien. Et en s'approchant du feu, il y a une vipère qui sort et qui s'accroche à sa main. Waouh! Je ne sais pas s'il y en a qui aiment les serpents. Moi, j'aime bien, sous forme de ceinture, de chaussures, de sac à main. Mais pour le reste, ce n'est pas trop mon truc. Ce n'est pas mon dada. Alors, je peux imaginer la tête de ces hommes en sachant ce qu'une vipère peut produire, non? Généralement, rien de bon. Et il voit l'apôtre Paul, et là on peut comprendre le raisonnement qui est le leur en disant « Waouh, il vient de sortir d'un naufrage et il vient d'être mordu par une vipère, c'est qu'il est vraiment mauvais ce gars-là. » Non ? Une tuile après l'autre. Combien de fois, frères et sœurs, on peut retrouver des personnes qui ont le sentiment, qui font une collection de tuiles. Et que fait-il cet homme de Dieu ? Que doit-il faire un enfant de Dieu? Est-ce qu'il se mettra à crier? Est-ce qu'il commencera à bouder, à taper des pieds en disant « c'est pas normal, je voulais servir le Seigneur, j'aurais jamais dû vivre encore ça. Seigneur, deux fois dans la même journée. » Il a eu une attitude spirituelle. Et c'est à cela que Dieu nous amène. Il a secoué la bête dans le feu. Frères et sœurs, c'est là-bas la place de l'ennemi. N'ayez pas peur de prendre position spirituelle et de rejeter les œuvres de l'ennemi dans le feu. C'est là-bas qu'ils vont être consumés. Et le texte il nous dit qu'il a continué comme si rien n'était arrivé. Il n'a pas commencé à lever les mains en disant « Regardez !» Non, non. Il a continué à mener une vie normale. C'est Dieu qui a fait que ces hommes qui avaient au préalable jugé l'apôtre Paul comme quelqu'un de mauvais puissent changer avis jusqu'au point de dire « Wow, ça doit être un Dieu !» Sommes-nous reconnaissables autant qu'enfants de Dieu? Est-ce que cette paix, cette assurance de notre vie, est-ce qu'elle habite nos cœurs? Dans la parole de Dieu, l'évangile de Marc au chapitre 16, les versets 15 à 18, il est écrit « Allez, dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, tiens. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il n'en leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront... Alléluia. D'ailleurs, que se passera à la suite de cet événement? L'apôtre Paul n'a pas saisi encore une fois l'occasion de parler plus haut que les autres. Mais Dieu sait comment permettre que sa parole se réponde. Et le texte nous dit au verset 8, le père de Publius était alité. Voici qu'il y a un homme d'une certaine envergure, d'un certain pouvoir sur l'île de Malte. Il les accueille. Et là, il y a, comme par hasard, un problème. Trouvez-moi une maison où il n'y a pas de problème. Non ? Mais je crois que quand la parole de Dieu, elle nous dit que celui qui accueille un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense, une bénédiction de prophète, n'est-ce pas ? Et là, cet homme, il accueille ces hommes qui sont arrivés, les pauvres naufragés. Il aurait pu se dire, écoutez, ce n'est pas mon problème. Mais le texte dit qu'il les accueillit pendant 3 jours. Il nous reçut et nous logea amicalement. Amen. Parfois, c'est l'amitié qui permet de rentrer dans une maison. C'est un contact humain. Certes, on pourrait tout de suite, dès le démarrage, je dirais même avant de rentrer dans la maison, commencer à citer les 10 commandements. Et à la suite, toutes les lois de Moïse. Mais est-ce que ce que les âmes ont besoin d'entendre? Ou est-ce qu'elles ont besoin de voir que nous aussi, ayant déjà vécu notre part de combat, nous mettons notre confiance en l'Éternel? Et puisque nous avons cette paix qui accompagne notre cœur, l'apôtre rentre dans la maison de cet homme et il entend que le père de Publius s'était alité en proie à la fièvre et à la dysenterie. Vous savez, les soins qu'il y avait à ce moment-là, ce n'étaient pas les soins qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas les urgences. Il n'y avait pas SOS médecin. Non. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il pria. Frères et sœurs, la meilleure chose que nous avons à faire, c'est de prier. Alléluia. Face aux problèmes et aux difficultés devant lesquels nous pouvons nous trouver, prions. Première action. Il n'a pas commencé à lui imposer les mains. Non, d'abord, il a prié. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ensuite, il lui imposa les mains et le guérit. Waouh! Magnifique! Alléluia! Mais le plan de Dieu ne s'arrête pas là parce que dit le texte là-dessus. Je dis, waouh! Puisqu'on vit une chose pareille, on lui a ramené tous les malades, tous les problèmes de l'île. Et c'est toujours cette grâce de Dieu, frères et sœurs, qui nous permet de continuer à prier et de compter sur la grâce de Dieu. Le texte dit qu'on lui rendit à tous un grand honneur à leur départ. On leur a fourni même tout ce dont il avait besoin. Il est possible que nous fassions partie d'un voyage qui connaît des hauts et des bas, n'est-ce pas? Éventuellement même un naufrage, des dangers. N'oublions jamais que nous sommes serviteurs de l'Éternel. Amen. Et que comme tels, nous sommes tenus à manifester au monde entier que nous sommes un peuple qui vit dans la présence de Dieu et dont le feu du Saint-Esprit habite en nous. Amen. Vous savez, ça ne sert à rien d'avoir un paquet d'allumettes si on ne s'en sert jamais. Plus on le laisse de côté, ce paquet d'allumettes, le seul risque qu'on a, c'est qu'un jour, alors qu'on voudrait s'en servir, il est tellement abîmé qu'il ne produit plus rien. Si on considère bien les choses, qui est-ce qui donne le Saint-Esprit? C'est Dieu le Père, si je lis bien le texte, n'est-ce pas? Jésus dira, mon Père vous enverra le Saint-Esprit. C'est le feu qui vient d'en haut. Si nous éteignons la vie de l'Esprit, est-ce qu'on peut la rallumer, nous? Que s'est-il passé quand certains ont voulu allumer des feux étrangers? Ça a été une catastrophe. Mais il est question pour nous, frères et sœurs, de continuer à expérimenter et à vivre le feu de l'Esprit. Et quand le feu est allumé, frères et sœurs, on doit continuer à agir dans notre vie pour l'entretenir, en obéissant pleinement à la volonté de Dieu. Et je voudrais dire que ce feu est là pour chacun de vous. Et encore ce matin, je crois que c'est une occasion pour nous de nous y approcher. Mon frère, ma sœur, ou vous qui êtes là pour la première fois, si vous êtes en train de vivre un naufrage, approchez-vous du feu. Vous avez besoin finalement de retrouver, de vous restaurer. N'est-ce pas? Et je crois que le Seigneur encore ce matin nous invite et dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai, alléluia, qui a besoin de repos ce matin? Je ne parle pas de faire une grasse matinée. Hein. Qui a besoin du repos? Oui? C'est vrai? Alors vous savez, moi j'ai trouvé toujours magnifique le fait que dès qu'il y a un feu, de manière spontanée, tout le monde se regroupe. Je me rappelle un petit souvenir, vous me le permettez? J'étais enfant, on allait faire les visites avec mon papa. Et on allait faire les visites parce que la voiture, elle était tellement démolie. Et donc, quand papa y conduisait, moi, il fallait que je tienne le siège. Autrement, papa, il était allongé. Donc, c'est compliqué de conduire avec un siège complètement cassé. Donc, je suivais mon père dans les visites. Alors, je ne sais pas si c'était un pré-apprentissage pastoral. Néanmoins, je me rappelle qu'on allait dans des maisons où il n'y avait pas de chauffage, vous savez, tel qu'on le connaît maintenant, la clim, les trucs électroniques, vous allumez à distance, vous arrivez, c'est chaud, non. Il y avait une cuisinière où on mettait le feu parce que c'était là que l'eau bouillait toute la journée. On cuisinait dans des casseroles en terre cuite. Qu'est-ce que c'était bon. C'est autre chose, hein, je vous assure. Je dirais aux jeunes, essayez, vous allez voir, ça n'a rien à voir. C'est autre chose, les petits plats. Allez, j'arrête. Je vais vous donner faim. Et là, après, il y avait un, on appelle ça un brasier, qui était mis au centre de la pièce, avec un contour en bois. On mettait que les braises dedans. Et toute la famille était autour. Et généralement, les papys, les mamies, les parents racontaient. Il n'y avait pas de télé. Et quand on allait faire ces visites, du coup, on se retrouvait autour du brasier en train de partager la parole de Dieu. Et on a pu voir des guérisons, des miracles de la part de Dieu. Amen. Et il y avait toujours quelqu'un qui s'occupait d'aller reprendre des braises et de les remettre pour que le feu soit maintenu. Parce que dès que le feu s'éteint, qu'est-ce qui se passe? Chacun repart en essayant de trouver une autre source de chaleur. Si aujourd'hui l'Église ne maintient pas le feu de l'Esprit, que se passe-t-il? Les âmes, elles vont partir où? Ils vont chercher d'autres sources qui ne sont pas forcément les bonnes. Nous avons la responsabilité devant Dieu de maintenir le feu de l'Esprit dans notre vie, mais aussi dans la vie d'Église. N'oublions pas l'appel de Jésus-Christ. Et je voudrais terminer avec ce texte de l'Évangile de Jean, chapitre 6, versets 37 à 40. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Je voudrais vous dire ce matin, peu importe la quantité de naufrages que vous avez connus dans votre vie, le Seigneur ne vous rejette pas. Le Seigneur vous accueille. On va fermer nos yeux et nous allons prier quelques instants ensemble. Seigneur et Dieu miséricordieux, toi qui encore ce matin accueille, Seigneur, accueille nos cœurs, accueille nos vies, Seigneur. Seigneur, tu ne fais pas de différence parce que tu aimes tous les hommes. Seigneur, tu invites tous les hommes au salut. Malheureusement, il y en a qui refusent. Malheureusement, il y en a qui préfèrent choisir d'autres moyens de régler leur vie ou de gérer leur vie. Néanmoins, encore ce matin, Seigneur, tu allumes un feu pour nous. Pour nous amener, Seigneur, encore à nous approcher de toi, Seigneur. Et là aussi, vivre, Seigneur, la manière où toi tu guéris, où toi tu libères, où toi tu nous enlèves même, Seigneur, les problèmes que l'ennemi aurait voulu créer dans notre vie. Ce matin, Seigneur, s'il y a des frères et des sœurs qui passent par des moments d'épreuve, Seigneur, ce feu est là aussi pour jeter, Seigneur, tout ce qui n'est pas bon, pour qu'il soit consommé, Seigneur. Certes, ta présence, Seigneur, révèle aussi les projets de l'ennemi. Mais nous croyons dans ta bénédiction et dans ta grâce, Seigneur. Seigneur, qui nous tient debout, quelle qu'il soit l'épreuve et la difficulté. Mais ce feu est là aussi, Seigneur, pour accueillir celui qui vient, Seigneur, et qui a tout perdu. Seigneur, tu ne fais pas de différence. Parce que ton amour, Seigneur, est unique et entier pour chacun de nous. Seigneur, merci encore d'éteindre, Seigneur, les feux étrangers qui peuvent brûler à droite à gauche. Et Seigneur, d'embraser nos cœurs du feu de l'Esprit. Encore ce matin, Seigneur, rajoute des braises dans notre cœur. Seigneur, rajoute, Seigneur, du feu dans notre vie. Pour que ton Église, Seigneur, soit ce lieu qui accueille, Seigneur, tous les pauvres. Que l'Église soit ce lieu qui, Seigneur, les bras ouverts tels que toi tu le fais, Seigneur, accueille le malheureux. Seigneur, garde-nous de tomber dans le piège, Seigneur, de sélectionner, de choisir ou de faire de différence. Garde-nous, Seigneur. Seigneur, tu nous as montré le chemin. Et nous voulons y marcher, Seigneur. Merci encore pour ta parole, Seigneur, qui vient encore ce matin nous appeler, Seigneur, à allumer le feu, Seigneur. Seigneur, à continuer, Seigneur, à entretenir, Seigneur, ce feu de l'Esprit dans notre vie, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, encore pour ta miséricorde. Bénis chaque personne qui encore ce matin a entendu ce message. Seigneur, touche le cœur encore de ceux qui peut-être entendront ce message par Internet, que ta parole se répande dans leur cœur, Seigneur. Seigneur, ce que nous te demandons, c'est encore que tu puisses toucher notre pays, Seigneur. Seigneur, malgré les épreuves que nous passons, Seigneur, nous sommes conscients, Seigneur, que tout le monde a besoin de toi. Alors viens, Seigneur, viens consoler les cœurs. Viens interpeller, Seigneur, et fais que chaque église, Seigneur, Seigneur, sois, Seigneur, ce brasier allumé qui attire les âmes à Christ. Et qu'à toi soit toute la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.